La revue de presse avec David Abiker.
D'abord, il fait un temps splendide, une chaleur terrible, mais la météo est surtout politique, David, ce matin.
Ce matin, les journaux vous parlent du temps qu'il fait et jamais la météo ne fut si politique, si stratégique. Climat, l'inquiétante douceur, titre Le Parisien aujourd'hui en France. La France passe à l'heure d'hiver le week-end prochain et le thermomètre flirte encore avec les 30 degrés. Tout cela, c'est selon les météorologues, le fait d'une plume de chaleur encordée, une dépression qui tourne sur l'Atlantique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et qui entraîne l'air chaud du Maghreb et le transporte vers le nord. Dans Le Parisien, Nicolas Charbonneau parle d'anormale saisonnière. Dans Le Figaro, Yves Triard parle, lui, de drôle d'atmosphère. Il s'agit bien sûr de l'atmosphère politique. Macron, écrit-il, donne l'impression d'y faire du surplace. Au défi du moment, le président répond par petites touches, poursuit Triard. Un peu d'Ukraine, un peu d'Europe, un peu de retraite, un peu de fin de vie, un peu de nucléaire. Macron redouterait-il les incontrôlables humeurs de l'opinion ?
À Libération, ce matin confirme, si les Français ont froid, le président de la République a quand même peur qu'à un moment ou à un autre, ça chauffe.
Les Français auront-ils assez de gaz et d'électricité pour se chauffer cet hiver ? C'est à cette question que le président devra répondre ce soir sur France 2. Depuis la rentrée, le gouvernement guette l'étincelle. Il redoute la réactivation d'un mouvement de type gilet jaune, aussi éruptif, aussi imprévisible. Alors les macronistes scrutent les études d'opinion. La question de l'équité, de l'égale répartition des efforts demandés aux Français revient souvent dans les réponses des sondés. À l'inquiétude sur la crise énergétique se joint un fort recul sur l'adhésion aux sanctions contre la Russie. Plus le thermomètre baissera, plus les Français seront sceptiques. Deux députés Renaissance interrogés par Libération ont ces formules lapidaires. Les gilets jaunes, c'était l'incompatibilité entre une ambition écologique et le fait d'embarquer les gens dans ces changements. Depuis, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Un autre parlementaire ajoute toujours dans Libération « Comment puis-je demander aux gens de ne pas monter le chauffage quand ils voient passer la rémunération de Carlos Tavares, patron de Peugeot ?» Clairement, la Macronie a peur que ça chauffe si la météo vire au froid.
L'arrivée de l'hiver va infléchir, David Abiker, le cours de la guerre en Ukraine.
Encore une affaire de météo, ça commence comme une campagne napoléonienne. L'hiver approche dans la steppe ukrainienne, nous explique le Wall Street Journal. Avec la chute des températures, les épisodes de pluie froide surviennent et détrempent routes et champs qui se retrouvent recouverts d'une boue où s'enlisent les hommes et les matériels. Apparaissent ensuite le gel et la neige qui durcissent le sol, mais rendent les combats plus difficiles. Pour monter une offensive majeure, une température de moins 15 degrés sera un handicap pour les deux camps. L'armée ukrainienne a sollicité les Occidentaux et sa population pour garantir aux soldats des vêtements d'hiver, des générateurs, des tentes. C'est pareil en Russie, des collectes de fonds sont lancées pour soutenir les nouvelles recrues toutes jeunes qui sont sur le front. L'hiver, c'est aussi un camouflage dans la neige plus délicat. Les drones vont repérer les traces laissées par les hommes et les chars. Et puis comment se cacher derrière des arbres sans feuilles ? La pire période, c'est ce que les Russes appellent la Rapoutitsa. Ce moment entre novembre et décembre où la terre devient boueuse. La Russie compte traditionnellement sur le général hiver et son compère, le général Bou, pour contrer ses ennemis, rappelle le Wall Street Journal. Mais cette fois, l'envahisseur est la Russie, rappelle le Wall Street Journal, avec le froid qui finira par arriver, c'est une autre guerre qui va commencer.
Et puis à lire dans les journaux ce matin également de grands déballages.
Le Monde publie des extraits du journal d'Agnès Buzyn. Elle l'a tenu avant que la crise du Covid ne soit officiellement déclarée. La ministre de la Santé ne veut pas payer seule les ratés de cette crise. 600 pages d'un journal commencé fin décembre 2019 où sont retracées ses hésitations, puis ses convictions, puis ses tentatives d'alerter au plus tôt ses collègues du gouvernement et le président. On m'a fait passer pour une idiote qui n'a rien vu, alors que c'est l'inverse, insiste-t-elle, dans Le Monde. Non seulement j'avais vu, mais prévenu. J'ai été de loin, très loin en Europe, la ministre la plus alerte. Mais tout le monde s'en foutait. Les gens m'expliquaient que ce virus, c'était une grippette et que je perdais mes nerfs. La lenteur au démarrage du gouvernement qui redoute une panique, les élections municipales qui approchent, le président et son secrétaire général Alexis Kohler qui poussent Agnès Buzyn à se présenter à Paris après le naufrage de Benjamin Griveaux. Le Monde raconte une femme tiraillée qui a frôlé la dépression d'y être passée dans une lessiveuse, mais entend bien en ressortir droite malgré sa mise en examen devant la Cour de justice de la République. Autre déballage sur le site Reporter. Affaire Bayou, les femmes parlent. Reporter résume ainsi les témoignages de Claire, Jeanne et Agathe. L'une des femmes interrogées qui a fait deux tentatives de suicide évoque des violences psychologiques. Une autre femme nous raconte sa violente dépression après sa relation avec Julien Bayou. D'autres encore, qui préfèrent rester anonymes, nous ont témoigné de leur malaise face à un homme qui leur semble instrumentaliser sa position dans un objectif de prédation. Car il ne s'agit pas d'une simple histoire privée de rupture malheureuse. Cela révèle, résume reporter, des mécanismes de domination. Toujours la domination à l'œuvre dans de nombreux couples. Étonnant retournement de l'histoire, ces relations qui, dans les années 70, relevaient de la libération sexuelle dans les mouvements gauchistes, sont aujourd'hui considérées comme des relations de domination. C'est vous qui parlez, Guillaume.
Absolument.
Il faut lire le papier de reporter où rien ne nous sera épargné, y compris les infections sexuellement transmissibles et les rapports non protégés qui les provoquent. On lit aussi des choses comme ça. Agathe et Julien Bayou ont commencé à se fréquenter. Ils étaient toujours avec Jeanne dans ce qu'ils assuraient être une relation libre. Agathe se trouva embarquée dans un ascenseur émotionnel. Il me disait que je l'obnubilais, puis disparaissait, revenait, me faisait grimper sur les toits de Paris pour une soirée ô combien romantique sous les étoiles. Il me disait qu'il n'y avait qu'avec moi qu'il se sentait comme ça, qu'il n'avait jamais connu ça, puis il disparaissait de nouveau, je ferme les guillemets. Des femmes qui ont souffert, certes, mais pas de crimes, pas de délits. Des témoignages à décharge aussi, il en fallait. Au final, on ne sait plus si on est dans Don Juan, une comédie d'Éric Rohmer, dans Hélène et les garçons, ou Vol au-dessus d'un nid de coq.
Il est 8h39, David Abiker, excellent comme tous les matins, Pascal Bruckner entre en scène avec Jean-Christophe Buisson. Alain Toledano, bonne journée à vous.